travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Nous sommes le jeudi 29 septembre 2016. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, la plage d'information rebelle de la plus rebelle des radios. Je vais commencer par un petit édito, avant de faire un petit programme pour vous annoncer la suite des réjouissances. Cet édito va s'appeler « La mort vous va si bien ». En effet, aujourd'hui, cet édito nous donne rendez-vous, nous et vous, avec la mort. D'abord avec cette mort qui efface tout. En tout cas, c'est ce que les journalistes des médias dominants et les hommes politiques voudraient nous faire croire. Prenons le cas de Shimon Peres, décédé récemment. On nous présente, en général et très souvent, Shimon Peres, essentiellement comme le prix Nobel de la paix. C'est-à-dire un faiseur de paix, grosso modo, dans l'inconscient populaire. Or, cela semble assez éloigné de la réalité. Certes, lors de la signature des accords d'Oslo, il y eut un mince espoir, mais qui s'est révélé totalement vain et erroné. Alors non, messieurs et mesdames les journalistes et les politiques révisionnistes de tous bords, non, Shimon Peres n'était pas un homme de paix. C'était avant tout un animal politique, avide de pouvoir. Loin de travailler à la paix, il a toujours préparé la guerre. À 20 ans, 10 ans après son arrivée en Palestine, il adhère au mouvement de jeunesse du parti de gauche Mapai, dont il deviendra secrétaire en 43. À l'occasion d'un voyage à Haïfa, il rencontre David Ben-Gourion, grande rencontre pour son avenir politique, puisque Ben-Gourion, appréciant les qualités de ce jeune cadre travailliste, il rejoint donc en 1947 le quartier général de la Haganah, l'armée juive clandestine, hein, qui fera des attentats en Israël, en Palestine, et qui va donner naissance plus tard à l'armée israélienne. Ben-Gourion le charge ensuite de récupérer des armes dont Israël a besoin face aux armées arabes. Dès lors, la carrière de Shimon Peres est toute tracée après un séjour aux États-Unis, essentiellement pour récupérer des armes. Le voilà directeur général du ministère de la Défense. Il a juste 29 ans. Il cultivera d'ailleurs de très nombreuses amitiés avec la France, le Royaume-Uni et même plus tard l'Allemagne. Il négocie ainsi l'armement de l'armée israélienne pendant toutes ces années avec la France. Ce sera le projet, puis la réalisation d'un réacteur nucléaire au sud d'Israël. La France fournit à Israël les technologies nécessaires pour ce réacteur et lui livre d'ailleurs un réacteur de 24 mégawatts, lui envoyant d'ailleurs des techniciens pour l'aider à la mise en service de ce réacteur, de cette centrale nucléaire de Dimona, aux portes du Negev. L'objectif de cette centrale, bien évidemment, n'est pas de fabriquer de l'électricité, mais plutôt de maîtriser le processus nucléaire, de fabriquer du plutonium et toutes ces choses-là, avec l'objectif de la part de Shimon Peres et d'Israël de fabriquer des bombes atomiques, ce qu'Israël va faire, puisqu'aujourd'hui, c'est la seule puissance atomique de la région, avec entre 100 et 200 têtes nucléaires. Merci Shimon Peres. On notera qu'il tentera même d'aider l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, à acquérir l'arme nucléaire dans une alliance qui ne se démentira jamais entre lui, Israël, et le régime raciste de l'apartheid. On pourrait citer aussi son soutien à la colonisation, notamment Cisjordanie, et bien d'autres choses abjectes. Et comble de l'horreur, la mort de cet homme si néfaste va même jusqu'à déverser son venin sur Mahmoud Abbas, qui a salué aujourd'hui en Shimon Peres, un partenaire courageux pour la paix. Quel mensonge, quelle ignominie. Et oui, la mort efface tout, vous dis-je. Alors continuons un peu et faisons un peu de politique fiction. Quand Jacques Chirac mourra, les journalistes des médias dominants et leurs amis politiques vont-ils oublier qu'il était de droite et qu'en ce sens, il a mis en œuvre des politiques pro-patronat et anti-salariés? Vont-ils oublier qu'il a relancé les essais nucléaires pour le 50e anniversaire du bombardement de Hiroshima? Vont-ils oublier qu'il a été corrompu et ardent défenseur de la corruption en politique, notamment lorsqu'il était maire de Paris? Vont-ils oublier qu'il a permis à la France-Afrique de perdurer, notamment en soutenant les dictateurs africains amis de la France-Afrique, que ce soit Nguesso, Idriss Déby et bien d'autres, sans parler de l'affaire de l'assassinat du juge Borrell, survenu à Djibouti en 95, dont le comportement de la France n'est pas très clair? Vont-ils oublier qu'il a essayé d'instaurer le CPE, le contrat première embauche, ce type de contrat de travail destiné spécialement aux jeunes de moins de 26 ans, qui devait être payé moins que les autres, qui était moins jeune, et puis avec 2 années d'ultra-précarité, puisqu'ils pouvaient être virés du jour au lendemain par leur patron. La mort effacera-t-elle donc tout ça? Alors, vu l'état de santé de l'ex-président de la République, la réponse ne saurait tarder. Et pendant ce temps, le projet de loi finance 2017, présenté par le gouvernement de Manuel Valls, augmente le budget du ministère de la mort dite acceptable. Je parle bien sûr du ministère de la Défense, puisque celui-ci va recevoir 0,6 milliards supplémentaires. Et oui, tout ça pour tuer des gens. N'oublions pas que l'industrie française de la mort se porte bien, puisque grâce à Hollande et à Le Drian, les armes de guerre françaises se vendent très bien. Bien sûr, pour le commun des mortels, la mort rôde toujours. Que vous soyez rebelle en Syrie, blogueur athée au Moyen-Orient, victime de la peine de mort quelque part sur cette planète, victime de fanatiques religieux au Niger, ou d'ailleurs que vous soyez noir aux États-Unis d'Amérique, hein, où un flic a encore assassiné mardi soir un black qui avait à la main juste une cigarette électronique. Alors oui, la mort est partout. La mort étant partout et nettoyant tout sur son passage, ne nous laissons pas abattre. Et laissons la parole à Pierre Desproges qui disait, je cite, « Qu'es-tu devenu, toi que j'aimais, qui fut pimpante, pétillante, bouche de fraise et nez coquin? Qu'est-ce que tu fous sous ton cyprès? Qu'es-tu devenu? Oh, je sais, tu es devenu azote 12%, acide phosphorique 17%, sel de phosphate 31%, âme 0. Oui, oui, vivons heureux en attendant la mort, et mort aux vaches, mort au Condé, vive les enfants de Cayenne, abat ceux de la sûreté. » Le programme de ce Canu Info, ce sera un peu de censure, un peu de morale, un peu de colonisation, un peu de Turquie, un peu de FIFA et de racisme, il paraît que tout va bien, un peu de loi numérique, un peu d'IVG, un peu de Wauquiez, un peu de Kobané, un peu de BD, un peu d'environnement, enfin, un peu de plein de choses et beaucoup de résistance.
Alors j'avoue que j'hésite entre commencer par les colons ou par les caricaturistes. Mais je crois que je vais tout de suite commencer par ce documentaire diffusé sur Arte cette semaine, un documentaire de Shimon Dotan. Un très beau documentaire diffusé en 2 parties, La prophétie et la rédemption, qui revient sur l'installation des colons en Palestine, des colons juifs israéliens. C'est un travail très fourni, très journalistique. Shimon Dotan a pu rencontrer des hommes politiques, des militants de gauche. Il a rencontré l'extrême droite israélienne et puis il a rencontré les premiers colons, les fondateurs de ces colonies. Et donc, à travers ce documentaire, il nous fait un état des lieux depuis l'installation des premières colonies. Il faut rappeler que c'était que des tentes. À aujourd'hui, la situation en 2016, il donne par exemple des chiffres. 1977, 4000 colons. Aujourd'hui, c'est 400 000. Donc, ça fait partie intégrante de l'histoire et du développement d'Israël. Et Shimon Dotan est quelqu'un en plus qui va au-delà de la simple réponse. En France, on oublie un petit peu, hein, vous savez, c'est Madame Lucet aujourd'hui qui semble être la journaliste la plus rentre-dedans du PAF.
Oui, c'est dire la
c'est pour dire.
Qualité.
Et Chimène Dotan, il s'arrête pas à la première réponse, il va au-delà. En plus, très clairement, il a expliqué à ses interlocuteurs, ses interlocutrices, que lui, il aime pas la colonisation, donc il a un rapport parfois assez brutal avec les personnes en face de lui. Mais c'est vrai que ça nous permet d'entendre aussi les discours de ces colons aujourd'hui, même si son document est accompagné d'images d'archives, d'images de sons aussi d'archives, ça c'est très intéressant. Il leur donne la parole à ces colons et ça nous permet de reposer un peu des fondamentaux. Pourquoi ils sont là, comment ils se sont développés. Évidemment, ils se sont développés avec l'aide des politiques qui ont tous trouvé une opportunité à soutenir ces colons. On nous parle aussi de racisme. Certains colons ont vraiment aucune gêne à nous parler du racisme, à dire oui, il y a des races et nous on n'aime pas les Arabes, on n'aime pas les Palestiniens. Et puis on apprend aussi par exemple que la démocratie ça va pas avec Dieu. Donc ça c'est des choses assez brutales à entendre, il faut dire, il faut être bien accroché quand même.
En fait, du coup ils sont très honnêtes parce qu'effectivement la démocratie est incompatible avec Dieu puisque le principe de la démocratie c'est que le peuple peut voter des textes alors que le principe de Dieu et de la religion c'est que les textes ne sont pas modifiables. Donc effectivement il y a une incohérence et ils ont l'air vraiment honnêtes. Du coup c'est l'intérêt de ce documentaire que je n'ai pas vu, mais montre des gens qui assument leur position alors que souvent on est quand même dans la demi-mesure, on essaye de pas trop choquer. Là au moins c'est brut de décoffrage un petit peu.
Ouais, il faut bien se rendre compte qu'on est face à des personnes qui parlent de territoire libéré. Là où nous on va parler
territoire occupé,
donc il faut bien se recentrer sur ces discours. Et puis aussi il faut pas oublier que on parle plus de village, on parle de ville avec des universités, des hôpitaux, des implantations très larges, hein. On est loin du petit kibboutz qui venait en Palestine pour récupérer les terres, parce qu'évidemment tout tourne autour de cette idée, ce concept de terre. On revient aussi sur la situation d'Hébron, comment c'est devenu le pôle de ces implantations. C'est très très intéressant. Moi je vous le conseille, c'est à voir en replay, hein, si vous avez un accès à internet, si vous avez un machin qui s'appelle une box. C'est vraiment à voir, c'est un très très beau travail de Chimène Dotan, à revoir donc sur Arte Télé. Et puis je voudrais poursuivre, je vous disais, j'ai hésité entre les caricatures et les colons, hein, suite à ta présentation, ton introduction. On va parler de Khalid Guédar. Khalid Guédar, c'est le directeur de la revue marocaine satirique Baboudi, une revue qui est née au printemps dernier, donc ils en sont à leur 10e numéro, si j'ai bien suivi. Et Khaled Guédar, il a voulu rendre un hommage posthume à l'écrivain jordanien Naïd Nattar, qui a été assassiné par balle dimanche.
Par un religieux. Hein,
ouais. Alors, c'est pas très clair, je vais y revenir, hein, juste derrière, c'est pas très clair. Et donc, sur sa page Facebook, il republie le dessin, un dessin non signé, hein, qui n'est pas un dessin de Naïd Nattar, c'est un dessin anonyme, que l'écrivain a posté cet été et qui lui a amené bien des ennuis, un dessin jugé blasphématoire en Jordanie. On y voit un djihadiste barbu étalé dans un lit avec des femmes autour de lui et qui cause à Dieu comme s'il était finalement le supérieur de Dieu. Une caricature qui n'a pas du tout plu, un dessin qui n'a pas du tout plu. Les autorités jordaniennes avaient engagé des procédures judiciaires contre Naïd Nattar pour incitation à la discorde confessionnelle et insulte à l'islam. Et ben pour Khalid Guédar c'est pas simple, hein, puisque même au Maroc il a reçu tout un tas d'insultes, de menaces sur sa page Facebook, des menaces de mort très claires, ce qu'on pourrait appeler des fatwas pour certaines d'entre elles. Depuis il a accompagné sa publication de citations de Charb, il a travaillé avec Charlie Hebdo, c'est aussi pour ça qu'il l'a rapporté ses citations. Aujourd'hui il ne demande pas une protection privée, il ne demande pas des gardes du corps, mais il aimerait bien que les autorités marocaines réagissent, hein, et puis s'inquiète un petit peu des menaces qu'il reçoit. Il aimerait bien que ne pas avoir le même sort que Naïd Nattar, même si on n'est pas bien sûr de la raison. Pour l'instant, du côté des partis politiques, il n'y a rien, hein, personne n'a réagi. Bon, il faut dire qu'il y a une campagne des législatives en ce moment. Mais par contre, plus étonnant. Ouais, je suis pas sûr. Ça, le syndicat national de la presse marocaine n'a pas réagi. Il est un peu tout seul, hein, quand même. Khalid Guédar, il a déjà été condamné, hein, pour ses dessins. Il avait fait des dessins sur Mohamed VI, qui n'avait pas du tout.
Oui. Au Maroc, il reste quand même beaucoup de censure, pas seulement religieuse d'ailleurs. Hein, du coup, sur la famille royale, c'est quand même difficile de faire un film. On rappelle le film qui parlait des prostituées au Maroc avait eu lui aussi droit à la censure, alors que ça parlait ni de la religion finalement, ni du dirigeant, mais ça parlait d'un autre sujet tabou qui était la sexualité et voire l'homosexualité. Donc là, c'est pareil, c'est des sujets, t'en parles, t'es condamné, t'es attaqué, et voire tu risques ta vie.
Ouais, alors
si pour le Maroc, on risque moins sa vie que dans d'autres pays.
Pour informer, Khaled Guédard, il a commencé sa carrière dans un journal islamiste, hein, donc oui. Comme quoi.
Il a évolué.
Ouais, et puis on peut faire plein de choses différentes, voilà. Et alors donc Naïd Attar, lui était présenté comme un nationaliste arabe de gauche, opposant à l'islam politique. Il a été emprisonné plusieurs fois à la fin des années 70. Il avait critiqué le roi Hussein, il fallait pas. Il a été la cible d'une tentative d'assassinat en 98. Là-dessus, il était parti se réfugier au Liban. Et il était devenu chroniqueur d'un journal, Al-Akhbar, Les Nouvelles, un quotidien proche du Hezbollah. Il faut savoir que Naïd Attar soutenait Bachar al-Assad. La politique iranienne, on peut être caricaturiste dans.
C'est
pas réservé à des gens de l'extrême gauche comme on voudrait nous le faire croire.
Alors du coup, les caricaturistes restent un outil politique.
Tout à fait.
C'est du dessin politique. On se rappelle, en France, on avait Jacques Faisan qui était au Figaro et qui faisait de la caricature de droite. Hein, donc il n'y a pas de problématique gauche ou droite dans la caricature.
C'est comme l'humour, je vais y revenir par la suite. Alors, juste pour rappeler, il avait été arrêté le 13 août dernier après avoir publié la veille sur son compte Facebook une caricature intitulée « Seigneur des Daéchistes ». Oui, je vous avais pas dit le titre tout à l'heure. Il avait été libéré sous caution début septembre, je crois que c'était le 3 septembre. Il avait finalement fermé cet été sa page Facebook. Et dimanche, il est en train de monter les marches du tribunal. Et effectivement, comme tu le disais, c'est un homme qui lui a tiré dessus par trois fois. Et l'homme s'est rendu tout de suite aux policiers qui étaient présents. Alors, selon certains journaux, ça aurait été un homme avec une barbe et des vêtements traditionnels. Pour d'autres journaux, c'est un ancien imam, fonctionnaire jordanien. Toujours est-il que pour l'instant, il a été inculpé de meurtre avec préméditation, acte terroriste ayant entraîné la mort et possession illégale d'armes à feu. C'est toujours important, hein, la possession illégale d'armes à feu. Dans ces cas-là, on n'en sait pas bien plus. Est-ce que Naïd Attar a été assassiné pour son soutien à Bachar al-Assad ou pour ses caricatures? La presse s'empoigne un peu sur la question, il faut bien le dire. Moi, j'ai pas d'avis, j'ai pas assez d'informations là-dessus.
Oui, c'est une question politico-religieuse parce que tout est mêlé dans
cette affaire. Pourtant, là-bas,
c'est la guerre sunnite-chiite, c'est aussi.
Pourtant, tout le monde a condamné cet assassinat, ouais. Même les frères musulmans. Ce qu'il faudrait quand même ne pas oublier, c'est que c'est le premier ministre jordanien, Hani El Moulki, qui est à l'origine des poursuites. C'est lui qui l'avait contacté, le ministre de l'intérieur, pour que Naïd Attar soit attaqué, poursuivi. Donc voilà, il y a aussi des gens qui pensent que l'État jordanien a un peu le pointé doigt sur cet homme qui n'était pas du tout populaire. Il ne faut pas le voir comme un grand propagandiste qui a donc aussi peut-être amené à son assassinat. Et puis, autre chose que vous pouvez voir sur Arte Télé, c'est le 53 minutes humoriste et musulman de Franck Egert, Farouk Hosseini et Sabine Jensky. Alors, c'est un peu court, moi je dois dire, mais ça fait un petit peu du bien parce que ça nous rappelle que on peut rire de tout avec tout plein de gens.
Avec tout le monde quand même.
Non, je l'ai pas dit. Donc là, le reportage, le 53 minutes s'intéresse à des humoristes, des dessinateurs, des blogueurs, des présentateurs de télé, des comédiens qui sont en France, en Allemagne, en Turquie, qui ont grandi dans une culture musulmane, qui sont pas forcément croyants eux-mêmes, mais qui montent sur scène. Qui sont devant des caméras et qui font de l'humour, qui font de la caricature, qui sont bons parfois dans leur spectacle dans l'autodérision, c'est-à-dire qu'ils vont se moquer de leur propre communauté. D'autres sont dans l'attaque, par exemple sur les petits blancs et sur le racisme, dans la provocation. C'est intéressant parce qu'on voit un petit peu des gens sur scène, par exemple cabariste Abdelkarim, qui est un Allemand, et moi je le trouve très très drôle, j'aimerais vraiment beaucoup le voir sur scène. On voit aussi Kéron, qui fait du stand-up, qui fait de l'impro, qui commence à être bien connu maintenant en France, qui lui est d'origine iranienne. Le père a vécu toutes les horreurs et lui se permet tout. Il dit que pour le provoquer, il faut aller vraiment très très loin. Pour l'instant, a priori,
il y a rien qui le choque.
Ouais, il y a rien qui le choque. Voilà, c'est pas du tout à fait abouti, mais ça fait du bien de se rendre compte que, comme le disent certains de ces humoristes, chez les musulmans aussi, on rigole chez nous aussi. On a de l'humour chez nous aussi. On est capable de caricature. On faut cesser de nous enfermer dans des cadres comme a pu le faire en France l'extrême gauche, par exemple.
Ouais, et l'extrême droite, du coup.
Et oui, mais l'extrême droite, bien évidemment. Logique, oui. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu des propos, moi je trouve parfois un petit peu colons, où les petits blancs diraient qu'il faudrait surtout pas faire la caricature sur l'islam parce que les musulmans ils vont mal le vivre. Et ben la preuve que non, grâce à ce petit document.
Alors, on va rester dans une région à domination musulmane, puisqu'on va aller faire un tour en Turquie. Donc, le pays qui est entre le Moyen-Orient et l'Europe, hein, on va dire, qui fait la jonction, avec les suites, encore et toujours, de la tentative de coup d'État du 15 juillet, puisque Erdogan y continue sa répression. Alors, je vais en reparler juste après, parce qu'il a accusé l'Empire Gulen, tous les gens qui sont proches de Fethullah Gulen, d'être à l'origine du coup d'État. Mais il se sert de l'état d'urgence et de tout ce qui a découlé de la tentative de coup d'État pour taper sur les Kurdes, parce que pendant le temps qu'on y est... Hein. Et la nouvelle du jour, c'est qu'il a fermé 10 chaînes de télévision, dont une chaîne pour enfants, hein, c'était un truc anodin quand même, hein. Mais bon, ça parlait kurde, qui était sur un bouquet de satellite qui s'appelle Turksat. Donc voilà, il a fait ça, c'était essentiellement dans le sud du pays, hein, là où il y a pas mal de Kurdes. Deux radios aussi ont été suspendues. Donc voilà, alors l'état d'urgence, il arrive bientôt à la fin, mais Erdogan a d'ores et déjà annoncé que comme Hollande, il continuerait le régime répressif, c'est-à-dire il prolongerait l'état d'urgence. Donc voilà, c'est mal parti quand même là-bas. Et justement, revenons sur un peu ce que fait la Turquie sur Gulen. On en a parlé pas mal sur ce qu'il a fait au sein de la Turquie. On va voir que ça va beaucoup plus loin, les attaques. Et comme la Turquie a beaucoup trop d'amis, malheureusement, de pays amis ou de pays faibles comme l'Europe, d'entités faibles comme l'Europe, il peut un peu faire ce qu'il veut et sur pas mal de pays de la planète, vous allez voir. Donc si on se remet un petit peu au 15 juillet dernier et dans les conséquences de cette tentative de coup d'État, au moins 27 000 employés du secteur de l'éducation se sont vu retirer leur autorisation de travail. C'est les principales attaques, hein, c'est dans l'éducation, hein, bien avant l'armée d'ailleurs. Parmi eux, il y en avait 21 000 qui travaillaient dans des écoles du mouvement Hizmet, le mouvement qui est issu ou dirigé par Fethullah Gulen, hein, qui, on rappelle, qui est réfugié aux États-Unis, qui a 75 ans, qui est un penseur de l'islam, soi-disant d'un islam progressif, mais en fait, quand on fouille, c'est un islam pas très progressif non plus, mais beaucoup plus que Erdogan ne peut l'être, bien évidemment. Il faut dire que Erdogan, il a mis la barre très haut, il est quand même pas très loin des fondamentalistes de Daesh, d'où peut-être pourquoi il les a plus ou moins laissés faire pendant pas mal de temps. Donc, alors c'est pas la première fois, hein, qu'il a Gulen dans son œil de mire, on va dire, puisque ça avait commencé en 2013 lors d'un vaste scandale de corruption qui avait éclaboussé Recep Tayyip Erdogan, et un, pour détourner l'attention, et deux, parce que c'était quand même pas mal ses ennemis, c'est-à-dire les proches de Fethullah Gulen, qui avaient balancer les infos de corruption. Il a attaqué Fethullah Gulen en disant qu'il déstabilisait le pouvoir, en le traitant de tous les maux. On rappelle quand même qu'avant, hein, jusqu'en 2002, Gulen était allié à l'AKP. Ils étaient bien d'accord quand même, c'est d'où le fait qu'ils soient pas si progressistes que ça, avec ce que le programme politique du programme d'Erdogan, le parti de la justice, plus connu sous le nom de AKP. Voilà, le mouvement Hizmet, hein, qui vient donc qui subit les foudres du pouvoir turc, a été fondé il y a quand même pas mal d'années, hein, en 1971. Alors l'idée qui était plutôt bonne au départ, c'était de combattre l'ignorance, la pauvreté et les divisions qu'il y avait au sein de la Turquie sur la religion, hein, parce que c'est un mouvement qui est religieux, pas du tout laïque. Hein. Donc voilà, et alors son investissement, c'est essentiellement dans l'éducation, mais il y a aussi pas mal de centres culturels et quelques entreprises. Ils sont implantés dans pas mal de pays. En France, je ne sais pas du tout s'il y a des implantations, mais il y a des implantations au Canada, il y a des implantations en Angleterre, des implantations en Afrique aussi. Alors, suite à cette début de répression en Turquie, hein, qui est vraiment très très forte, la Turquie est allée voir à l'étranger et a demandé au gouvernement d'attaquer et de faire fermer tout ce qui était en lien avec l'empire, comme on pourrait l'appeler, de Fethullah Gulen. Alors, ça a été relativement efficace, puisque on notera que la Jordanie a fermé une école, l'Azerbaïdjan a fermé les écoles Gulen, le Soudan, la Libye ont fermé les écoles Gulen, la Somalie, le Pakistan, le Kazakhstan aussi. Donc ça a été plutôt efficace sur ce plan-là. Alors l'Allemagne, qui en a pas mal aussi sur son territoire, a refusé pour l'instant de surveiller les écoles et de les fermer. Le Nigeria a résisté aussi. L'Égypte résiste encore un peu. Les États-Unis, où il y en a beaucoup, hein, il y aurait 200 écoles, plus ou moins en lien direct avec Fethullah Gulen, ont résisté en disant ben, la loi américaine s'applique sur le territoire américain et la loi turque s'applique en Turquie. Un bon coup dans la gueule quand même à l'allié turc, hein, sur lequel les Occidentaux passent quand même beaucoup de choses. Mais ces refus et ces acceptations dans certains cas mobilisent toujours la Turquie qui continue ses démarches diplomatiques. Donc là, on sait qu'il y a des actions envers le Japon, hein, puisqu'il y a quelques écoles au Japon. Alors, dans d'autres pays, ça a été réglé depuis longtemps, en fait, puisque le mouvement a déjà été éjecté pour d'autres raisons. En Russie, par exemple, le mouvement était pas mal implanté. Après la chute de l'URSS. Et en 2002, les services secrets russes ont accusé le groupe Gulen de soutenir les groupes armés en Tchétchénie, hein, qui étaient des groupes musulmans ou islamistes. Il y avait un peu les deux. Et du coup, ils ont fermé déjà toutes les écoles. Donc ça, c'est réglé. La problématique se pose au Kurdistan irakien. Donc c'est en Irak, mais c'est dans la partie kurde de l'Irak. Là, effectivement, depuis un certain nombre d'années, avec les guerres pourries en Irak, qui ont comme seul aspect positif de permettre aux Kurdes d'avoir un peu d'autonomie, pas mal d'écoles se sont installées. Et là aussi, malgré une sorte de guerre quand même larvée entre les autorités kurdes irakiennes et la Turquie. La Turquie fait pression pour faire fermer ses écoles. On ne sait pas si ça va aboutir, mais il y en a quand même un certain nombre, il y en aurait une trentaine au Kurdistan irakien. Voilà. Donc après, on pourrait faire le tour des pays du monde, hein. Il y en a pas mal en Afrique, le Soudan par exemple, a accepté d'obéir à la Turquie, a fermé les deux écoles qui étaient à Khartoum, dans la capitale. Donc voilà. Bon, ce qui nous montre un truc quand même dans tout ça, c'est que le régime autoritaire turc est arrivé par autoritarisme à impacter de l'éducation dans d'autres pays. Alors certes, l'Angleterre résiste, les États-Unis ont résisté, l'Allemagne a résisté, mais plein d'autres pays ont cédé, et ça démontre un peu le pouvoir de nuisance très important que peut avoir encore la Turquie pour arriver à imposer des fermetures d'écoles pour des raisons sur lesquelles la justification est pas claire, hein, parce que il y a pas de preuve que Gulen ait vraiment préparé le coup d'État. Donc pour l'instant, il n'y a pas de preuves réelles. Et même si c'était vrai, de là à fermer toutes les écoles, ça reste compliqué. On ne défendra pas ni les écoles, ni les centres culturels, ni l'idéologie de Gulen dans ce Scanu Info, bien évidemment. Mais on condamne la politique autoritaire turque, qui sort de Turquie et qui malheureusement a une efficacité quand même non négligeable.
Il était une fois l'histoire d'un groupe de travail visant à lutter contre le racisme. Il était une fois un groupe de travail qui vient d'être fermé. C'était le groupe de travail contre le racisme de la FIFA, créé il y a maintenant 3 ans, puisqu'apparemment dans le football, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de racisme.
Ah, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'on a l'impression que le racisme reprend du poil de la bête un peu partout.
Eh ben, tu t'es trompé.
Ah bah ouais, et dans le foot c'est guéri alors.
Oui, puisque la FIFA a donc écrit à ses membres, hein, pour expliquer que la FIFA avait complètement rempli leur mission temporaire, complètement, je cite.
En 3 ans. Ouais.
Oui, alors ça avait été c'est un groupe de travail qui avait été créé en 2013 sous l'autorité de l'ancien président Monsieur Blatter, hein, je vous rappelle qu'il a été suspendu. Un groupe de travail donc créé suite à l'adoption par le 63e congrès de la FIFA d'une résolution sur la lutte contre le racisme et la discrimination. Attention quand même, ça voyait large. Alors, la FIFA avait mis en place, hein, une chose, une seule et unique chose. Elle avait suivi les recommandations du groupe de travail en 2015 et elle avait introduit pour les matchs de qualification pour le Mondial 2018 en Russie le déploiement d'observateurs anti-discrimination afin de contrôler et signaler tout cas de discrimination lors de matchs. Ouais, c'est tout, c'est-à-dire des gars, des nanas avec un petit papier, un stylo, peut-être une tablette graphique, allez savoir, qui observaient. Là,
ils ont rien vu.
Il y avait de la mesure. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce que, par contre, on sait, c'est que ce groupe de travail, la présidence de ce groupe de travail, avait été confiée à Jeffrey Webb. Vous vous souvenez pas de Jeffrey Webb ? C'est l'ancien patron de la CONCACAF, la Confédération d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes. J'adore dire CONCACAF. Vous vous souvenez vraiment pas de Jeffrey Webb ? Jeffrey Webb, il avait été arrêté en mai 2015 à Zurich à l'initiative de la justice des États-Unis d'Amérique. Depuis, il a été inculpé pour racket, fraude et blanchiment. Oui, il avait fait partie de ces joyeux qui s'étaient fait mettre la main dessus. Alors, comme il a été suspendu à vie par la FIFA, évidemment, il avait fallu lui trouver un remplaçant et c'est Constant Amari de la Fédération Congolaise qui avait pris sa suite, puisque tout ça est fini. Bon, on peut pas dire qu'il y a eu beaucoup a priori d'activité, puisque d'après ce qu'on en sait, il y a eu très peu de réunions. Ils se sont pas beaucoup vus, certainement encore de l'emploi caché, pour que des gens restent dans leur canapé, comme diraient certains. Bon, ça fait évidemment polémique cette décision, puisque il y avait un certain nombre de gens qui avaient rejoint ce groupe du travail. Il y avait des footballeurs, des sportifs, des journalistes, et évidemment ça a fait râler un petit peu tout le monde. Par exemple, Obai Wiwana, excusez-moi pour la prononciation, qui est un journaliste et chroniqueur nigérien, a dit que lui, il n'était pas finalement choqué par cette décision puisqu'il s'y attendait. Donc déjà, ça fait un petit peu flipper que savoir. Tout le monde s'attend à ce qu'un groupe de travail monté par la FIFA, ne serve à rien. Et puis, par contre, il y en a d'autres qui font remarquer que ce groupe de travail avait aussi un objectif. C'est la prochaine Coupe du Monde 2018. Cet objectif, c'était de tenter de réguler le racisme dans le foot en Russie, où ils sont pas fous. Ils voulaient pas réguler les extrêmes droites en Russie. Je dis que réguler parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Il y a eu une étude menée par Football Against Racism in Europe and Sova Center. Et cette étude montre qu'il y a eu 92 incidents racistes répertoriés en Russie pour la saison 2014-2015 contre 83 pour les deux saisons précédentes réunies. C'est-à-dire qu'il y a une... On sait en Russie que c'est important, mais on sait que là, ça a carrément augmenté. Donc on se demande pourquoi ce groupe de travail a fermé, puisqu'il aurait pu être un tout petit peu utile quand même pour cette prochaine Coupe du Monde. Les gens s'inquiètent un petit peu de savoir quand même combien de supporters vont se faire défoncer la gueule par les petits fachos russes. Alors du côté de la FIFA, on continue à dire que le racisme est pris très au sérieux. C'est la secrétaire générale de l'organisation Fatma Samoura qui loue le travail du groupe de travail. Il a rien fait, mais elle loue quand même son efficacité. Elle nous parle de politique tolérance zéro, que le racisme ne passera pas, globalement, no passaran. Elle a pas dit ça, mais elle avait l'air de le penser, en tout cas, dans sa conférence de presse. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que la FIFA estime avoir fait son travail. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des recommandations dans ce groupe de travail et que maintenant, en fait, c'est aux fédérations locales de se démerder avec ces recommandations. C'est pour ça que la FIFA estime que c'est tout bon, on peut passer maintenant à autre chose, c'est plus son problème, elle s'en lave les mains, la FIFA, les fédés au niveau local, on casse des merdés finalement avec les vilains racistes. Bon, la FIFA nous étonne pas trop dans ce phénomène. On attend quand même de voir comment en 2018 ça va se passer par là-bas, en Russie, parce que je pense que ça va être assez costaud, à la fois dans les stades et puis certainement autour.
Alors on va basculer en France maintenant avec la loi numérique qui vient d'être votée et je vais revenir sur les choses positives que contient cette loi parce qu'il faut quand même dire quand il y a des choses positives dans la loi. On a beaucoup critiqué les lois du gouvernement pas vraiment socialiste de Valls Hollande. Là il y a des choses pas mal. Alors la première chose plutôt pas mal sur l'open data. Alors l'open data c'est encore un mot anglo-saxon pourri pour dire que les données des administrations doivent être accessibles accessible à tout le monde. Donc d'ici 2 ans, les principales administrations devront automatiquement mettre en ligne différents documents publics en leur possession, notamment des données. Et je cite, c'est expliqué, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Donc en gros, hein, les chiffres que les fonctionnaires peuvent récupérer sur pas mal de choses au niveau statistique, ils vont les mettre à disposition, ce qui va être sympa. On aura un petit peu d'infos, au moins au niveau statistique. De même, les logiciels vont être, enfin les codes des logiciels vont être fournis. Hein, on sait qu'il y a eu sur la procédure APB, hein, c'est la procédure qui est mise en œuvre pour les élèves de terminale sur la poursuite d'études après le bac. Hein, c'est APB, c'est-à-dire admission post-bac. Le logiciel est pas clair, enfin le code on l'a pas, et du coup il y a quand même des fois des décisions bizarres qui sont attribués aux élèves suite à leurs vœux et qui semblent un peu louches. Et du coup, il y avait une demande de certains parents et de certains profs que le code soit donné. Et effectivement, cet élan là en faveur de l'open data va obliger que certains logiciels soient plus clairs. Donc on aura les codes et du coup on pourra vérifier comment ils fonctionnent. Hein, et notamment savoir s'il n'y a pas entourloupe comme ça a été le cas, ou en tout cas suspecté pour la procédure APB post-bac. Alors, autre nouveauté et progression, alors c'est encore pas tout à fait au point, mais ça va être une évolution future pour se mettre à jour vis-à-vis des lois européennes, c'est les amendes de la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Alors, ils en mettent pas beaucoup, hein, mais ils ont une possibilité jusqu'à présent de 150 000 euros d'amende. Là, ils pourront monter jusqu'à 3 millions d'euros. Alors, ça dépend un peu, c'est le chiffre maximum, hein, mais pour les entreprises, par exemple, c'est 4% de leur chiffre d'affaires. Hein, si c'est une petite entreprise qui a 5 000 euros de capital, ils vont pas mettre une amende de 20 millions d'euros, hein, enfin, ou de 3 millions d'euros. Et l'objectif, c'est de passer en 2018, si Marine Le Pen n'a pas gagné, qu'on n'est pas sorti de l'Europe, d'appliquer la directive européenne qui dit que les amendes peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros. Alors c'est intéressant, même si la CNIL ne met pas beaucoup d'amendes, ces amendes pourront attaquer tous celles et ceux qui sur Internet volent nos données et les utilisent de manière illégale ou à la marge de la légalité pour faire du business. Hein, sont visés Google et les autres et d'autres choses un peu plus pernicieuses. Hein. Donc voilà, c'est une belle progression. J'espère que ça sera utilisé en tout cas. Il y a un truc sympa mais qui aura peu d'impact, c'est sur les logiciels libres, puisque c'est écrit dans le texte, les administrations devront encourager l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation de leur système informatique. Alors, comme ces devront encourager, eh ben, ça sert à rien, malheureusement. Ça part d'un bon principe, il aurait fallu dire les administrations doivent basculer dès qu'il existe un logiciel libre équivalent dans la version du logiciel libre. Il aurait fallu écrire ça dans le texte de loi pour que dès que c'est possible, les administrations basculent vers le monde du libre. Or, c'est pas ça. Du coup, à mon avis, la portée juridique sera quasiment nulle. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a eu un accord qui a été signé, un accord honteux entre Microsoft et l'Éducation nationale. Donc là, c'est pas encore gagné sur les logiciels libres et le monde du libre. Hein. Alors un truc pas mal sur la liberté de panorama, alors ça signifie que les auteurs et les ayants droit ne pourront plus s'opposer à ce que des particuliers prennent des photos d'œuvres architecturales et de sculptures placées en permanence sur la voie publique. Alors certes c'est une entorse au droit d'auteur, mais c'est plutôt positif, parce que quand vous prenez le skater, qui je sais pas s'il existe encore d'ailleurs, place de l'Hôtel de Ville, ou vous prenez la place des Terreaux, jusqu'à maintenant, César, qui est à l'origine de la sculpture, ou, j'ai perdu le nom, Buren, qui est à l'origine de la place des Terreaux, portait plainte contre les gens qui mettaient les photos de ces monuments sur leur site internet, sur Facebook ou sur d'autres trucs. Parce qu'ils estimaient que c'était une œuvre artistique qui leur appartenait. Là, ça enlève ça. Et enfin, on va pouvoir reprendre des photos, des choses qu'on voit dans la rue. Hein, parce que ça devenait compliqué. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Enfin, c'est même quelque chose de totalement positif. Ça reste réduit le droit d'auteur sur des choses qui sont qui appartiennent à la collectivité au bout d'un moment. Hein. Voilà. Un truc sur le droit à l'oubli pour les mineurs aussi, donc il sera dorénavant possible de réclamer la suppression des photos, des vidéos mises en ligne avant que la personne ait atteint l'âge de 18 ans, notamment par exemple par ses parents. Lui pourra demander que ça soit enlevé. Hein. Une fois qu'il a 18 ans, voilà, il dit non, je veux plus rien de voir tout ça. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Il y a un équivalent à ce qui existe sur l'eau, le téléphone ou l'électricité, c'est-à-dire le maintien de la connexion Internet. Aujourd'hui, le fournisseur peut couper pour des raisons d'impayés du jour au lendemain la connexion Internet. Dans la loi, c'est écrit que ce sera plus possible tant que les pouvoirs publics n'auront pas statué sur une demande d'aide de la famille qui a des problèmes pour payer son accès à Internet. Alors, ils auront le droit de restreindre, hein, comme EDF ou les fournisseurs d'électricité restreignent les mauvais payeurs, mais pas de couper. Et ça, c'est important, puisque dans le monde moderne, il y a déjà des choses qu'on ne peut plus faire que sur Internet. Donc effectivement, ça protège la connexion Internet, même quand on a des problèmes d'argent. Voilà, enfin bon, il y a plein d'autres choses, d'autres choses positives, mais ça va dans le bon sens. Il y a un truc marrant que je trouve, le droit de récupération de ces données. Donc normalement, à partir du 25 mai 2018, il faut du temps, hein, parce qu'il va falloir faire les programmes qui fonctionnent, les internautes devront pouvoir télécharger en quelques clics l'ensemble des données qu'ils ont mises en ligne sur des services tels que Facebook, Deezer, YouTube et des choses comme ça. On clique et on récupère tout ce qu'on a mis, pour pouvoir le mettre notamment sur d'autres plateformes. Alors que maintenant, si vous avez mis quelque chose, il faut les récupérer un par un, c'est compliqué. Donc là, la loi va obliger. C'est donc plutôt voilà une facilité pour l'utilisateur, c'est plutôt pas mal. Bon, ça c'est ce qu'il y a dans la loi, il reste les décrets d'application. On ne sait pas quand ça tombe et comment est-ce qu'il y aura dedans. Parce qu'on peut imaginer Facebook ou YouTube faire pression quand même pour limiter ce dont je viens de parler à l'instant, à voir dans le futur proche ou lointain, puisque ça dépend de la vitesse d'exécution du gouvernement pour les décrets d'application. Et alors, en lien indirectement avec cette loi numérique, c'est pas dans la loi numérique, c'est dans une autre loi, il y avait un truc qui était plutôt pas mal, la prévision de créer un délit d'entrave numérique à l'IVG. Aujourd'hui, hein, si vous êtes anti-IVG et que vous empêchez une femme d'aller, de rentrer dans un centre anti-avortement, vous attaquez un médecin, vous empêchez le médecin de faire les avortements, vous êtes poursuivi pour entrave à la liberté de choix de pratiquer un IVG. Par contre, sur Internet, ça n'existait pas. Et on est apparu, hein, depuis quelques années, des sites anti-IVG, mais qui se maquillent sous des sites d'information sur l'IVG. Et après, ils introduisent, bien évidemment, ils culpabilisent à mort les femmes. Enfin, c'est un tissu d'horreur, mais c'est fait de manière tellement intelligente que les personnes, que certaines personnes se font abuser. Donc face à ça, il y a eu une réaction du gouvernement, une réaction plutôt salutaire, de la ministre notamment, qui avait décidé de placer dans une loi qui n'a pas grand-chose à voir, enfin si, indirectement, la loi sur l'égalité et la citoyenneté, donc de placer un amendement sur créant donc l'entrave numérique à l'interruption volontaire de grossesse. Avec donc 2 ans d'emprisonnement possible et 30 000 euros d'amende. Alors c'était très encadré, hein, il fallait que, je cite, il fallait qu'il y ait des allégations, indications ou présentations faussées de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif. Donc voilà, il y avait le contenu était précis. Et c'était, ça allait dans le bon sens. Donc la ministre, enfin c'est pas une ministre, c'est peut-être une sous-secrétaire de quoi que ce soit. C'est la ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes. C'est Laurence Rossignol qui portait ça. Et ben elle s'est pris une claque. Elle s'est pris une claque parce que la commission des lois du Sénat a rétoqué son amendement pour dire que, alors ils ont utilisé une belle excuse, hein, l'article 45 de la Constitution qui dit que cet amendement est pas en lien direct avec le projet de loi. Bon, c'est un projet de loi sur la citoyenneté et le droit à l'avortement. À mon avis, c'était quand même jouable de le mettre dans une loi sur la citoyenneté. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand les assos anti-avortement ont appris qu'il y avait ce projet de loi, ils sont montés au créneau, ils ont appelé, contacté tous les élus essentiellement de droite qu'ils connaissent au Sénat pour leur dire, et au Parlement, enfin leurs élus pour leur dire, il faut que vous fassiez pression, trouvez une astuce pour faire sauter cet amendement, et c'est la honte, ils ont fait sauter cet amendement, et on va donner le nom de la traître, Françoise Gatel, une femme en plus, sénatrice UDI, donc soi-disant le centre, hein, qui donc a empêché ces assauts anti-avortement, de faire de la propagande anti-avortement et de détourner des personnes qui se font abuser par ces sites mensongers et qui restreignent la liberté des femmes de disposer de leur corps, hein, puisque c'est de ça dont il est question. Voilà, donc c'est passé à l'as. Ça a été très court, hein, ça a duré quelques jours. Et pendant ce temps, Pendant ce temps, un manuel anti-avortement est distribué dans certains lycées privés. Ça a été balancé, en fait, c'est un dessinateur, un caricaturiste...
Dont on a déjà parlé ici.
Ouais, Nawak, hein, qui fait des choses pas mal. Et deux lycéennes qui suivent un peu ce qu'il fait sur Internet lui ont envoyé des photos d'un joli prospectus. On a un joli fœtus dessus qui dit qu'il entend tout et qu'il est bien vivant. Alors oui, le fœtus est vivant, mais enfin la cellule que vous avez au bout de votre doigt, elle est vivante aussi. Et c'est pas pour ça que là où la petite peau sur le côté, là que vous arrachez, elle est vivante avant que vous l'arrachiez. Et c'est pas pour ça que vous le faites pas. Donc voilà, c'est pas une bonne raison, sauf que c'est une belle propagande. C'est édité par la Fondation Le Jeune, association d'extrême droite anti-avortement, anti-euthanasie, ultra-réactionnaire. C'est une institution religieuse. Hein. Donc voilà, et il y a cette brochure contient des propos horribles du style près de 9 millions d'avortements ont été pratiqués depuis 1975, ce qui représente 9 millions d'enfants uniques irremplaçables. Ouais, enfin je vous rappelle, petit connard d'intégriste, que quand même chaque fois qu'une femme a ses règles, c'est aussi potentiellement un enfant en moins. Alors c'est quoi? On fait quoi? On interdit les règles? On empêche?
Oh, on interdit les femmes, mince.
Ah oui, non, bah, ça ils y pensent, hein. Ça ils y pensent à la Fondation Le Jeune. Où d'ailleurs c'est pour eux, c'est pas des femmes, puisque les femmes n'existent que quand elles sont mères. Voilà, donc les femmes n'existent pas, ce sont des mères potentielles. Donc voilà, c'est assez horrible. Ils expliquent d'ailleurs plus loin que même un enfant né d'un viol est innocent. Et donc, les cellules ne méritent pas ce qu'ils appellent la peine de mort. Hein. Un avortement, c'est quelques cellules qu'on enlève. Voilà, c'est horrible. J'espère que ça commence à faire réagir et j'espère que ça fera réagir. Dans ces lycées privés sous contrat, qui sont souvent pour les lycées cathos, il y a un retour de la propagande religieuse très très forte.
Alors on va parler BD, on va commencer par une première dont la première page nous raconte « Tu entends Ratata, c'est Daesh. Tu entends Toum Toum Toum, c'est nous. Et Zboum, Zboum, ça dépend. Feu et Zboum, c'est les Américains. Zboum tout seul, c'est Daesh. »
Donc ça c'est quelqu'un qui raconte, il est en Syrie, il entend le bombardement.
Ouais, c'est une BD qui s'appelle Kobane Calling de Zero Calcare, c'est un très jeune dessinateur italien. Si, il est très jeune, il est né en 83 par rapport à toi.
Ouais, c'est ça, il est très jeune.
Il est très jeune.
Il vient du milieu squat et punk et des centres sociaux italiens.
Tout à fait, son dessin s'en ressent, donc c'est un carnet de voyage dans la veine autobiographique, en noir et blanc, au feutre, avec des références effectivement autant à Stargate, Star Wars au milieu de son histoire et Zero Calcare nous raconte son voyage.
Ah, ses voyages, puis il y en a
deux. Ses voyages, il y en a deux, d'abord au Kurdistan turc, puis au Kurdistan syrien.
Ouais, à Kobané, quoi. Il est allé à Kobané.
Il est allé à Kobané.
Kobané, c'est quand même connu. C'est là où on a eu toutes ces infos sur ces femmes combattantes, hein, qui combattent l'État islamique. Voilà. Et c'est avec, des militantes, des combattantes très impressionnantes. Et il va les rencontrer, du coup.
Alors il nous raconte qu'il va partir, même s'il se demande finalement pourquoi il part. Finalement, il a aussi une envie d'honnêteté intellectuelle. Il aimerait bien savoir si tout ce qu'on raconte sur cette belle autogestion, sur la liberté des femmes, l'autodétermination des peuples, tout ça, si c'est vrai, ou si c'est que des conneries, comme il dit, sur la révolution. Donc il part avec des amis, dans un but aussi sanitaire, pour emmener du matériel sur place. Avec une petite délégation. Alors, il part aussi avec quand même une carte de presse, puisque c'est le courrier international local italien qui va lui fournir une carte de presse qui va lui permettre de l'accompagner, enfin, en tout cas, espère-t-il au début. En échange, ils doivent faire quelques vignettes, puisqu'ils travaillent déjà pour cette revue. Et puis, ça va se transformer finalement en cette BD. Alors, il va nous parler de. C'est un témoignage personnel, donc subjectif. Il nous raconte la complexité de cette guerre, les contradictions. C'est à la fois drôle, c'est touchant, il y a beaucoup d'autodérision, parce qu'il se moque de lui-même.
Oui, c'est ça. Bah, il a beaucoup d'humour.
Oui.
Ce qu'on n'a pas l'habitude dans ce genre de reportage, parce que c'est un peu l'équivalent de Joe Sacco, hein, et de tout ce qu'a fait Joe Sacco sur la Palestine, on voit très bien. Sauf que Joe Sacco,
c'est sérieux.
C'est ultra sérieux tout le temps. Et lui, il arrive, il fait passer des choses incroyables, mais il y a de temps en temps, régulièrement, un petit truc d'humour qui casse un petit peu les lourdeurs que peuvent être les situations là-bas, parce que c'est quand même plombant la situation, même si quand il est à Kobané, c'est pas plombant, c'est l'inverse, parce que là, d'un seul coup, quand on lit la Constitution, ça fait rêver, un truc où il y a de l'égalité, où il y a de l'autogestion, enfin voilà. Mais voilà, il arrive à jongler entre les deux. Il a un talent incroyable, ce gars. Enfin moi, j'ai été scié en découvrant cette BD et ce jeune auteur italien qu'on connaissait pas, qu'il arrive à avoir ces deux trucs, c'est-à-dire faire une BD ultra sérieuse avec plein d'informations, et dedans, comme il se met en scène, du coup, hein, comme Joe Sacco se met en scène, il a ce côté autodérision sur lui-même, et puis il va jusqu'au bout de sa démonstration, de dire, moi, peut-être qu'on nous a raconté des conneries, peut-être qu'il n'y a pas de combattantes kurdes, il va les rencontrer, et puis si, elles existent, et c'est un peu la classe, quoi.
Ouais, mais c'est ça aussi qui est intéressant, cette espèce de naïveté qui s'accorde, cette autodérision où il est l'Italien qui déboule là-bas, qui pose des questions parfois un peu bêtes, et puis il a une manière de nous raconter les choses où parfois il va dire que il insulte tous les historiens,
il fait des raccourcis,
mais en tout cas il recentre quand même le sujet, c'est aussi important. C'est aussi quelqu'un d'engagé politiquement, donc il attaque la Turquie, les politiques, les médias sur le traitement, sur les médias, c'est la manière dont les médias traitent la guerre en Syrie, traitent la situation des Kurdes, c'est-à-dire finalement que le côté militaire, bien souvent, avec des approximations en plus, ou la situation humanitaire, et lui, il a aussi envie de nous parler de cet espoir, là-bas, de cette situation qui lui l'interpelle par rapport à son propre engagement en Italie. Donc moi, je vous conseille aussi cette BD, Kobané Calling, de Zero Calcare. C'est chez Cambourakis,
une petite maison
d'édition. Alors, c'est sorti le 7 décembre dernier. En France, il y a déjà une réimpression, et en Italie, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel succès autour d'une BD. C'est un succès absolument incroyable. C'est vraiment, il y a eu encore une nouvelle réédition, enfin une réimpression, excusez-moi. Et en France, ça marche aussi très bien.
C'est une grosse BD sous format
roman graphique,
voilà, qui fait 300 pages, un truc comme ça là.
Ouais, je te cherche le nombre de pages puisque je l'ai sous la main, mais un truc comme ça, pratiquement un peu moins, on est sur 250. Hein.
Voilà, c'est vraiment génial.
Et le dessin est très très beau, très intéressant.
Oui, et puis il a un bon coup de crayon.
Ouais, et nous on a beaucoup aimé, ça nous plaît beaucoup. Donc allez lire ça, et puis on avait envie de parler d'une deuxième BD.
Oui, il y a un petit lien, parce que on va parler de Guy Delisle, et Guy Delisle, il a un petit côté dit Guy Delisle quand il fait le Candide, en fait. Moi, je trouve, comme Guy Delisle savait faire quand il est allé en Palestine, quand il est allé à Shenzhen.
Ah oui, souvenez-vous, c'est Pyongyang, Shenzhen, Chronique birmane, Chronique de Jérusalem.
Voilà. Et donc, on va parler de Guy Delisle parce qu'il vient de sortir une nouvelle BD qui s'appelle S'enfuir, récit d'un otage. Alors là, par contre, c'est pas du Guy Delisle traditionnel.
430 pages.
Ah oui, alors là, c'est un gros pavé. Hein.
C'est un gros pavé. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire de Christophe André, otage pendant 111 jours. Comment raconter ça par le dessin alors
des situations très répétitives.
Que Christophe André est dessiné dans cette cellule où il y a un truc qui pendouille au plafond pour éclairer, un matelas. Rien d'autre, et la continuité du jour et de la nuit sans fin. On a le désespoir de Christophe André, les espoirs à un moment. On est sur du micro-événement. La moindre petite chose a son importance, et moi je trouve que ce qui est fabuleux, c'est tout de suite cette couleur. Ce gris bleuté, moi je trouve ça très très beau. Ça permet vraiment d'amener finalement avec beaucoup de douceur, je trouve, ce propos qui est quand même très dur. On suit pendant 427 pages, je crois précisément, Christophe André qui se morfond dans cette cellule, qui espère être sauvé, qui attend, qui se dit
au moindre petit événement, il a un espoir, un doute, un questionnement.
Parce qu'il est transporté à un moment, il est déplacé d'un lieu à un autre. Au début, il se rend compte qu'il est dans un appartement, qu'il y a des vies, il a juste deux personnes en face de lui, il entreaperçoit la femme de la maison, il se déplace juste pour aller aux toilettes et à la douche. Tout est en plus très finalement réglé, il y a les repas qui sont amenés. Et Guy Delisle a mis 15 ans à aboutir avec ce projet. Il raconte que il s'y est pris à plusieurs fois. Au début, il avait voulu raconter l'enlèvement, les situations un peu thriller, puis que déjà, ben, c'était pas son style, qu'il n'y arrivait pas, puis que c'était horrible, donc il a tout repris. Et finalement, moi, je trouve qu'il arrive à cet ouvrage qui est vraiment très beau. C'est une situation difficile, douloureuse, et pourtant, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur, mais c'est certainement aussi le dessin et la couleur qui jouent. Tu voulais en rajouter autre chose?
Non, juste rappeler que c'est un otage qui s'était fait enlever juste à côté de la Tchétchénie. Hein, c'était en lien avec la rébellion islamique contre la Russie. Et c'était donc des gens qui l'ont enlevé, qui étaient entre les militants de l'islam politique et les mafieux. Hein, parce que alors là, du coup, en Tchétchénie, on savait jamais bien. Et d'ailleurs, là, on ne sait pas, hein, parce qu'au final, on n'aura pas la raison. C'est ça la situation. Hein, donc ça se passe. Mais finalement, on la voit très peu, on la voit qu'au début, parce qu'après, bon, on le voit enfermé dans sa cellule ou dans ses cellules, parce qu'effectivement, il va changer. Oui, c'est très sensible. Hein, c'est comme d'habitude chez Guy Delisle, avec un dessin qui est quand même très simple. Il arrive à faire passer 15 émotions. Il est très très fort pour ça. Et du coup, on s'attache pas mal au personnage et on est avec lui. On stresse. On se dit tiens, putain, ils vont découvrir.
Ouais, on est vraiment là. Comme
et c'est vraiment super bien. Enfin, bon, il a un talent incroyable quand même, Guy Delisle.
Et Premier Paper, ça se lit tout seul les 427 pages. C'est vraiment un vrai plaisir. Donc, on vous recommande S'enfuir, récit d'un otage de Guy Delisle et Cobain et Calling de Zéro Calcaré. Voilà, c'était nos deux BD de la semaine.
Voilà, c'est la rubrique culturelle du Canu Info du jeudi. Et pour terminer, une petite rubrique environnementale avec plusieurs infos. Je vais commencer par un truc un peu drôle, parce que bon, il faut faire des trucs un peu drôles des fois dans ce Canu Info, sinon on déprime. Alors, il y a un curé, un père très exactement, mais c'est un curé, hein, Régis Char, qui a demandé à la mairie et à la maire de Vénissieux d'instaurer des menus sans viande dans les cantines. Alors, ce coup, on dit, qu'est-ce que c'est ce curé? Pourquoi il demande des menus sans viande? Après, on apprend les membres d'une commission qui s'appelle Laïcité et Vivre Ensemble. Donc, on se dit, effectivement, et on le sait, il y a un problème avec certains croyants dans les cantines, hein, les musulmans et les juifs, qui mangent pas notamment de cochon, où la nourriture est compliquée, où il y a des interdits de nourriture, et qui, donc, s'absentent de la cantine quand il y a des jours, quand il y a de la viande ou quand il y a du porc. Bon, et on se dit, c'est pour cette raison qu'il va dire ça, puisque dans sa commission Vivre Ensemble, effectivement, on rappelle qu'un repas végétarien, ça exclut personne, puisque n'importe quelle religion s'y retrouve presque. Alors, bon, pour les juifs, des fois, c'est un peu compliqué, mais quasiment, ils s'y retrouvent, les musulmans s'y retrouvent, les catholiques, chrétiens s'y retrouvent, les athées s'y retrouvent, et les viandards s'y retrouvent, parce qu'ils ont le droit de manger des trucs sans viande. C'est vrai que ça exclut personne, donc on pensait que c'était là-dessus. Et non, en fait, il explique, il dit, non, c'est pour des raisons écologiques. Parce qu'effectivement, lui, il pense qu'il doit dire aux catholiques de moins manger de viande pour la défense de la planète. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, marrant. Je vais pas défendre un curé, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa d'avoir ce contre-discours, parce que c'est pas là où on l'attendait, ce curé, donc un curé qui semble intéressé à la protection de la planète. Alors, toujours dans l'environnement, le petit truc de l'OMS qui est sorti cette semaine sur les villes les plus polluées du monde, et donc de France et de Navarre. Et en France, on a appris que c'était en banlieue parisienne, à Pantin très exactement, qu'il y avait la ville la plus polluée de France. Donc ils sont à 36... c'est la pollution aux particules, et puis il doit y avoir d'autres polluants, mais surtout la pollution aux particules. Donc ils sont à 36 microgrammes, la norme est de 10. Hein. Donc 3,6 fois plus, ça fait beaucoup de... truc pourri dans les poumons des gens qui habitent à Pantin. Pour la région lyonnaise, Lyon dépasse bien évidemment les normes, hein, 2,2 fois plus polluante que l'autorise la norme, hein, on est à 22 microgrammes. Mais les deux endroits les plus pollués de l'agglomération se situent à la Mulatière. Alors la Mulatière, ça paraît compréhensible, c'est un croisement, là il y a l'autoroute, il y a la 6 qui passe par là avec l'accès au tunnel de... on passe par là pour accéder au tunnel de Fourvière. Donc effectivement, il y a des autoroutes, il y a plein d'engrangements de voitures. Et à Villeurbanne aussi, il y a le périph' aussi qui joue peut-être. Et puis il y a la circulation des vents, il y a plein de choses qui jouent. Hein. On rappelle que c'est quand même essentiellement la pollution automobile. Contrairement à ce que la propagande peut dire en disant c'est le chauffage, tout ça, qui intervient, les industries. Il n'y a presque plus d'industrie à Lyon. Et le chauffage en été, on n'en a pas. Hein, donc et la pollution aux particules, elle est très forte en été, notamment. Elle est forte un peu tout le temps, vous allez me dire. Ok. Donc voilà, ça rappelle, l'OMS rappelait que 3 millions de décès chaque année, pas en France, hein, dans le monde, dû à la pollution. En France, le chiffre officialisé que tout le monde utilise, c'est 48 000. C'est un chiffre un peu approximatif, mais ça donne une bonne idée de l'impact de la voiture sur la santé des habitants de France. Donc voilà. Et on va parler un peu de nucléaire avec deux petites infos. La première, c'est une info, alors moi j'avais pas percuté, j'ai lu trois articles dessus cette semaine, sur un accident qui était arrivé aux États-Unis d'Amérique en février 2014 dans un centre de stockage de déchets nucléaires à Carlsbad dans le Nouveau-Mexique. Donc c'est un centre un peu comme celui qu'on va avoir à Bure où on a des déchets vitrifiés, hein. C'est une sorte de verre spécial qui retient les déchets nucléaires puisqu'il faut a priori pendant au moins 100 000 ans que personne n'y touche et qui ne s'évacue pas trop dans la nature. Et bah, y a eu une réaction chimique à l'intérieur d'un fût, et ce fût s'est cassé, ça a fui, ça a contaminé tout autour. Alors les articles rappellent que, notamment le Los Angeles Times, que bah, voilà, ils n'ont pas communiqué, hein, les acteurs du nucléaire là-dessus. Et puis bon, voilà, bon, c'est en cours de résolution. Ils ont presque réglé le problème aujourd'hui, enfin presque, hein, parce que le site devrait pas être réutilisable avant 2021. C'est juste un petit fût, hein. Les fûts, bon, c'est pas très gros, un fût, hein. C'est pas énorme, c'est pas petit non plus, mais c'est pas très gros, juste un fût, hein. Alors qu'il va y en avoir des milliers dans le truc. C'est bloqué jusqu'en 2021. Ils ont calculé le coût que ça avait coûté, et là, on se marre, 2 milliards de dollars. Juste pour un fût qui pète. Ça a coûté ce prix-là pour remettre en état l'installation, les fuites, et refaire démarrer l'installation de stockage d'ici 2021. Voilà, c'est ça qu'on nous prépare à Bure. Ça nous rappelle que c'est pas de la décontamination de nucléaire, c'est juste qu'on met la radioactivité dans d'autres fûts, dans d'autres contenants, et voilà. Et puis pour terminer, un truc aussi un peu drôle et ironique au sens de l'histoire, puisque c'est la Turquie, à travers son ministère de l'énergie et des ressources naturelles, notamment, qui s'appelle Berat Albayrak, qui a dit qu'il fallait fermer la centrale nucléaire voisine de Medzamor, qui se trouve en Arménie. Et oui, et pourquoi il veut que les Arméniens ferment la centrale? Parce qu'effectivement, elle est vieille, elle a 47 ans, et c'est une centrale pourrie, hein. Elle peut péter à tout moment, et ça peut tuer des Turcs. Et moi, je trouve qu'au sens de l'histoire, c'est ironique qu'un ministre d'un État qui reconnaît pas que son État a massacré des centaines de milliers d'Arméniens dise aux Arméniens, vous avez un truc pourri qui peut péter et qui peut tuer quelques personnes chez nous, ça serait bien que vous le fermiez. Alors bien, évidemment, on est d'accord avec lui sur le fond, sur la forme, moi j'aurais fermé ma gueule parce que j'aurais un peu honte de dire ça aux voisins d'à côté alors qu'ils occupent encore un bout de son territoire, la montagne Ararat, et qu'ils en ont massacré des cent et des mille il y a plus de 100 ans maintenant. Donc voilà, c'était un peu bizarre cette intervention. C'était à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, il y avait une réunion à Vienne en Autriche. Je crois qu'on a fini ce Canu Info, il est 20h01. Alors, comme on a un peu de temps et que l'émission suivante n'a pas l'air d'être là...
Je voulais donner des nouvelles de M. Wauquiez, ouais. Parce que j'ai le temps.
Mais t'avais sauté M. Wauquiez, j'avais pas vu.
Oui. Je préfère parler des BD plutôt que M. Wauquiez.
C'est quand même important.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Parti Socialiste sur Lyon a décidé de ne pas lâcher M. Wauquiez. Hein, on ne va pas leur reprocher, vous allez me dire. Ouais. Alors, la dernière attaque en date vise les voyages de M. Wauquiez et de son équipe. Alors, un voyage en Californie et en Russie. En Californie, M. Wauquiez avait été accompagné de Mme Jarry, vice-présidente à l'économie de proximité, commerce, artisanat, profession libérale et numérique. Je m'en étrangle. Et Patrice Vercher, membre de la commission relations internationales et accords agricoles. Hein, oui. Et puis un autre déplacement en Moscou qui concernait M. Philippe Meunier, vice-président, je prends ma respiration, délégué à la sécurité, aux partenariats internationaux, à la chasse et à la pêche.
Oula, il a tout ça, lui.
Ouais, il a tout ça. Et en fait, l'opposition demande à Monsieur Wauquiez de bien vouloir dire combien tout cela a coûté. Monsieur Wauquiez a interpellé plusieurs fois en assemblée et en commission. Pour l'instant, il a décidé de ne pas être transparent du tout. Donc, le Parti Socialiste remonte au créneau puisque Monsieur Wauquiez est quand même normalement très très attaché à l'éthique et à la transparence.
En tout cas, il fait semblant.
En tout cas, il avait fait passer un petit peu une charte, hein, éthique. Hein, je te rappelle, a priori, elle n'est pas pour lui. Et puis, la deuxième truc qui nous a fait, enfin moi, qui m'a fait bien marrer, c'est que Monsieur Wauquiez, il a une famille. Hein, on avait déjà ici parlé de sa femme.
qu'il met en avant.
Qu'il met particulièrement
qu'il
en avant.
Qu'il utilise tel un objet.
Et alors, il y en a une autre qu'en ce moment, il mettait moins en avant, c'est sa maman.
Ah bah oui, parce qu'elle n'est pas d'accord avec lui.
Alors, c'est pas d'accord. C'est pas qu'elle n'est pas d'accord, c'est que, bon, elle ne fait pas tout à fait pareil. Elle s'appelle Eliane, hein, donc de son petit prénom, la maman.
Et elle est mère, je crois.
Et elle est mère, effectivement, M-A-I-R-E, mère de oui, Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire.
Alors, Chambon-sur-Lignon, il y a une histoire, quoi.
Ouais, c'est le village des Justes. Hein, ouais.
Donc, eux, au lieu de refuser les réfugiés, ils les ont accueillis.
Oui.
C'était les réfugiés juifs de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, mais à Chambon-sur-Lignon, le conseil municipal était pour accueillir des réfugiés, des migrants en ce moment, là, en 2016. Mais alors, il y a eu un petit problème lors du dernier conseil municipal, puisque Hélène Vauquier était bien d'accord pour accueillir 5 migrants, mais ne voulait pas qu'il y ait un vote et que cela figure dans le compte-rendu de la séance. En fait, elle voulait bien le faire, mais elle ne voulait pas que ça se sache. Pourquoi ? Bah parce que Laurent Wauquiez, vous l'avez bien entendu, se répand dans la presse et dans les médias pour expliquer qu'accueillir des migrants, c'est une folie, comme il a pu le dire.
Alors, si sa maman le fait et que ça se sait, il va être un peu mal à l'aise, le petit Wauquiez.
Alors, apparemment, il n'est pas du tout mal à l'aise, je vais te dire. Par contre, sa mère avait peut-être l'air de l'être un petit peu, ou en tout cas, elle pensait qu'il fallait qu'elle le protège politiquement et pas montrer qu'elle était un petit peu plus ouverte d'esprit, semble-t-il, quand même. Donc, du côté de la mairie de Chambon-sur-Lignon, on rappelle que les réfugiés vont bien arriver dans les semaines qui arrivent. Donc, ça n'est pas remis en question. Et puis, alors, du côté de Laurent, du fiston, il s'est énervé. C'était hier, mercredi, sur BFM TV. Il a expliqué à Jean-Jacques Bourdin qu'il fallait laisser sa mère en dehors de ça, qu'il n'aimait pas tellement qu'on instrumentalise des choses familiales. Bah oui, mais en même temps, il le fait quand il est dans Paris Match avec sa femme. Il met aussi ses gamins en photo, vous avez raconté ça.
Il utilise en objet sa femme et ses enfants pour sa carrière politique, comme ils le font, il y en a plein qui le font, mais c'est quand même horrible.
Et en plus, sa mère est un personnage public, puisqu'elle est élue à Chambon-sur-Lignon. Donc en tout cas, ça ne lui a pas plu. Bah, nous, ça nous a fait bien marrer, parce que tout ce qui ne plaît pas à M. Wauquiez, évidemment, ça nous amuse. Et puis, bon, bah, écoutez, on n'aime pas non plus le Parti Socialiste, mais malgré tout, on va leur souhaiter quand même bien de la chance pour pouvoir, la volonté, de la bonne humeur pour pouvoir continuer à s'attaquer à Monsieur Wauquiez, parce que comme on le dit à chaque fois, il est jeune et si on commence pas maintenant, on va se le taper pendant plusieurs décennies.
Voilà, c'est la fin de ce Quénu Info, donc 20h05, on vous laisse en compagnie des bandes, continue.
On se retrouve peut-être la semaine prochaine.
Eh ben oui, peut-être. La semaine prochaine. Bien sûr, tu seras là la semaine prochaine. Allons. Et puis voilà.
Demain, bon courage à tous et à toutes si vous allez travailler demain ou si vous travaillez ce soir.
Et c'est demain, 19h, pour le prochain Quénu Info.
Ciao, ciao. Bonne soirée à vous.
Bye, bye.